Cette fois, on s'en va prendre la mer en compagnie de Paul Tréguer. Si vous nous suivez depuis un moment, vous le connaissez. C'est un océanographe, professeur à l'Université de Bretagne occidentale. Il est aussi fondateur de l'IUEM, Institut universitaire européen de la mer. C'est dire si l'océan, c'est son sujet. Et il aime aussi vulgariser et partager ses savoirs. Il aime raconter des histoires, des fictions à base de science. Les contes polaires qu'on peut réécouter sur le site internet et sur le blog de Paul Tréguer. Repères au pluriel, évolution du monde, c'est le nom du blog qui va servir de fil rouge à cet entretien. Paul y raconte aussi ses voyages, il y publie aussi des poèmes, il commente les actualités scientifiques, ce qu'il va faire avec nous aujourd'hui en tant que sage qu'il est. Bonjour Paul.
Bonjour à toutes et à tous.
Alors, on va parler donc de l'océan forcément, mais de l'océan dans son rôle de régulation du climat. On va rappeler comment l'océan intervient dans la régulation ou la non-régulation, d'ailleurs s'il y a des failles du climat.
Alors c'est simple en fait, on sait tous que l'océan, l'eau, conduit la chaleur. Eh bien, vous connaissez l'effet de serre, je pense qu'il n'y a plus besoin de vous présenter ça. Donc il y a un excès d'effet de serre du fait de l'émission de CO2 et de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc ça crée une chaleur supplémentaire, 90% de cette chaleur est récupérée par l'océan. Autrement dit, si l'océan n'était pas là, il ferait beaucoup plus chaud. Et puis, l'océan a la possibilité de dissoudre les gaz, notamment le fameux CO2, et 25% des émissions de nature anthropique, c'est-à-dire que l'homme crée, 25% des émissions repassent dans l'océan. Et donc, de ce fait, l'océan régule le climat, puisqu'il absorbe une partie de l'excès de chaleur et une partie, bien sûr, du CO2 que nous émettons.
Mais ça n'a pas toujours été autant le cas. C'est-à-dire que quand les humains n'avaient pas cette action en utilisant les énergies fossiles, c'était pas vraiment l'océan, c'était pas vraiment ça qu'ils faisaient, en fait.
Non, en fait, il y avait une régulation tout à fait naturelle entre l'océan qui absorbe et qui échange des gaz avec l'atmosphère, et puis la biosphère au niveau planétaire, qui en fait de même. Donc, c'était parfaitement équilibré.
Et là, il s'est mis donc à jouer les abaisseurs de température, l'océan, c'est ça. Mais alors, on se dit, bah, il va pouvoir continuer à faire ça tant qu'on émet des gaz à effet de serre. C'est bien, puisque l'océan est là, il va absorber tout ça.
Évidemment, la réponse est que s'il régule, lui-même subit des impacts. Et puisqu'il absorbe de la chaleur, il se réchauffe. Il se réchauffe et puisqu'il absorbe du CO2, il s'acidifie. Et donc ça, c'est un gros problème parce que acidifier l'océan n'est pas neutre, parce que ça va impacter directement les organismes calcaires, y compris ceux que vous aimez bien, comme les huîtres, tout ce qui est coquillages calcaires, mais aussi ceux que vous ne voyez pas, qui sont importants pour la régulation du climat, qui sont les petits organismes microscopiques, le plancton. Voilà, et donc ça commence à jouer.
Ils perdent leur coquille ou leur exosquelette, enfin, il y a des trous, comment ça se...
Oui, ils ne peuvent plus le former quand le pH diminue, et donc c'est évidemment très gênant. Et d'autre part, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'océan absorbe la chaleur, il se dilate. Et il se dilate avec comme conséquence l'augmentation du niveau de la mer, d'autant que se rajoute à cette dilatation l'effet du fait de l'augmentation de la température de l'atmosphère, de la fusion des glaciers, à la fois les grands glaciers, les calottes polaires, donc du Groenland et de l'Antarctique, et aussi les glaciers terrestres. Donc le tout fait qu'on prévoit une augmentation au moins d'un mètre du niveau de la mer à la fin de ce siècle.
Oui, c'est ça. L'augmentation du niveau marin, c'est la fonte des glaces, mais c'est aussi la dilatation. C'est-à-dire que voilà, tout corps qui chauffe, entre guillemets, augmente de volume. C'est ça aussi. Quelle est la part d'ailleurs? C'est quoi la proportion?
On peut dire qu'en gros, là, l'effet prédominant, c'est la dilatation pour l'instant.
Ah bon?
Mais donc vient ensuite l'effet, c'est nouveau, des glaces polaires, c'est-à-dire des calottes polaires, notamment du Groenland. Et en troisième point, les glaciers terrestres. En effet, on pensait que les calottes polaires étaient beaucoup plus stables.
On pensait qu'elles ne fondraient pas tout de suite.
Qu'elles ne fondraient pas tout de suite. Ah, en tout cas, on a du temps pour les fondre. Il ne s'agit pas de fondre la totalité, parce que là, on serait sur des dizaines de mètres d'augmentation.
Mais quand même,
ce que l'on a été surpris par, c'est la fusion du nord du Groenland, la calotte glaciaire du nord du Groenland, qui est accélérée. Et d'autre part, pour ce qui est de l'Antarctique, au sud du Cap Horn, vous avez tous entendu parler du Cap Horn et les navigateurs qui vont accoster en peu de temps au Sable d'Olonne. Et bien donc, au sud du Cap Horn, vous avez la péninsule antarctique qui est aussi en train de fondre. Donc ça craint, et effectivement, il est temps de s'en occuper. Alors, quelles sont les prévisions d'augmentation de température moyenne à la surface de la Terre, eh bien, il y a une mauvaise nouvelle qui est parue récemment, c'est que le cap des 1,5 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle est franchi désormais, malheureusement. C'est-à-dire que les accords de Paris sont déjà obsolètes. Et on est maintenant sur une trajectoire qui va plutôt à 3 degrés 1, 3 degrés 2 à la fin du siècle, sauf si on fait vraiment quelque chose pour en changer. Et on peut.
On peut, mais oui, c'est ça la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Quand on dit, là il y a un livre qui est signé Paul Tréguer et qui est sorti récemment qui s'appelle « L'océan est-il maître du climat ?» où la réponse est oui, quelque part en fait, enfin largement en tout cas.
Alors la réponse est oui, on peut le faire, le problème c'est veut-on le faire? Alors en fait on peut le faire, et le premier moyen pour cela, c'est de changer de mode de production d'énergie, non plus utiliser des énergies fossiles, le gaz, le pétrole et bien sûr le charbon, et on peut passer aux énergies renouvelables. Et la Bretagne, de ce point de vue-là, a un fort potentiel. Il y a quelque temps, c'était dans les années 80, j'avais coordonné la publication du projet Alter Breton, dont l'objectif était pour une Bretagne à 5 départements de considérer l'autonomie énergétique comme un objectif possible. Alors, pour ce qui est maintenant de la Bretagne moderne, c'est-à-dire la Bretagne de 2030-2050, effectivement, on peut passer à des choses très sérieuses, et on va en parler un petit peu, si vous voulez bien, c'est-à-dire fois des énergies, alors différents types d'énergies, marée motrice, c'est déjà en route, il faut se rappeler du barrage de la Rance.
Oui, même si c'est pas l'idéal d'un point de vue écologique, le barrage
de la
Rance.
Ça n'est pas, mais je vais y revenir là-dessus. Mais en tout cas, quand ça a été inauguré en 1966 par le général de Gaulle, j'étais d'ailleurs à l'EDF à cette époque-là, eh bien, donc ça produit de l'ordre de 250 mégawatts, ce qui n'est pas rien. Alors, effectivement, à l'époque, on faisait des barrages. Maintenant, on ne le ferait plus comme ça, sûrement. Il y a l'énergie houlomotrice, les hydroliennes. Alors, ça, c'est un vrai scandale. La société Sabella a réussi à faire un chouette dispositif qui s'appelle une hydrolienne au large d'Ouessant, qui contribue pour 13% à la consommation énergétique annuelle.
Qui se sert des courants des marées, en fait.
Qui se sert, en fait, des courants. Mmh. Et des courants, les courants alternatifs des marées. Quoi. Alors, il y a quelque chose qui est tout à fait anormal à Ouessant, si les Ouessantins m'écoutent. Vous êtes contre le mix énergétique du maire. Eh bien, vous avez tort, parce que vous continuez à utiliser du fioul, ce qui est un vrai scandale. Acceptez donc une éolienne de grande dimension. Vous acceptez bien un grand phare au niveau du cross pour la navigation.
C'est vrai.
Quelle est la différence par rapport à une grande éolienne, quelques capteurs solaires, et vous auriez votre autonomie énergétique. Faites-le, s'il vous plaît. Ça rendra service à la planète et à vous.
Oui, et puis là, l'hydrolienne, malheureusement, Sabella a mis la clé sous la porte. Donc, voilà. L'hydrolienne ne fonctionne plus, en fait, c'est ça
L'hydrolienne fonctionne toujours. Elle est toujours fonctionnelle. Alors, Sabella a mis la clé sous la porte, effectivement, et c'est ça qui est un scandale. Elle avait faillite, elle est rachetée par une entreprise anglaise qui s'appelle Inyanga Marine Energy, mais qui n'a aucune compétence dans ce domaine, et probablement ils vont la relever et l'arrêter, mais c'est vraiment un
c'est dommage, parce que Sabella avait une vraie compétence, c'était sa spécialité.
Totalement.
Quoi, l'hydrolien. Voilà. Et alors, il y a aussi l'éolien en mer, on en a parlé un tout petit peu, mais là, on peut peut-être développer, parce que ça y est, nous, on a notre parc breton d'éolien en mer. Quel est le premier bilan en baie de Saint-Brieuc, quel est le premier bilan
On l'accepte de la Bretagne à 5 départements, ne pas oublier parc qui est au large de Saint-Nazaire.
Exact.
Et donc de Saint-Brieuc maintenant, en gros c'est 500 mégawatts, c'est-à-dire ça représente une production d'énergie qui correspond à la consommation électrique de 800 000 habitants, chauffage compris. Ce qui n'est pas tout à fait rien.
En effet.
Et alors bien sûr, il y a toujours des conséquences, on en a parlé tout à l'heure au niveau écologique, mais il faut savoir ce qu'on veut. Vous voulez pas d'éolienne, acceptez donc une centrale nucléaire, les gars. C'est le choix. Et donc vous avez forcément quelques impacts, sans doute bien moindres que ceux qui ont été évoqués par des associations qui sont parfois un peu extrémistes, comme Sea Shepherd et autres, quel que soit le respect qu'on en a. En effet, il y a effectivement des vibrations, surtout pendant la période d'installation, non pas dû au forage, comme il avait indiqué, mais plutôt par le bruit que fait le navire installateur lui-même. Et de ce point de vue-là, l'amélioration est facile à faire pour les autres chantiers.
Ah oui. Donc on a appris quand même là avec ce premier chantier.
Alors, okay. Est-ce que ce type d'installation gêne par exemple les migrateurs ?
Les oiseaux, ben voilà, c'est la grosse question.
Donc, ben, écoutez, vous le trouverez dans mon blog, hein, sur un de mes airs du temps, et totalement là-dessus. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a donc un oiseau fameux qui a l'habitude de venir des Baléares jusque en Angleterre, et il n'est pas du tout gêné, il vole tranquillement entre les éoliennes sans être perturbé. Donc en fait, les oiseaux peuvent aussi s'adapter. Alors on cite bien sûr le cas d'éoliennes qui heurtent, qui sont heurtées, enfin l'un ou l'autre, les oiseaux qui heurtent les éoliennes, peu importe. Mais assez franchement, c'est assez négligeable, et ça, c'est bien inférieur au nombre d'oiseaux qui sont naturellement tués par d'autres raisons. Il y a quelques inconvénients, c'est absolument indéniable. Quid pour la pêche ? Comme vous avez vu, ça n'a nullement impacté, en tout cas pas négativement, les prises de coquilles Saint-Jacques en baie de Saint-Brieuc. Et d'autre part, il faut voir que quand on met un obstacle en mer, ça crée une zone naturelle d'enrichissement qui sont plutôt bénéfiques si on la gère correctement. C'est une espèce d'aire marine protégée.
Ça fait des niches un peu pour les poissons.
Ça devrait le faire. Alors moi, je suis un peu surpris que les pêcheurs décident de chaluter, continuer à chaluter dans cette zone qui est relativement limitée. Ça représente moins de 10% de leur zone de pêche habituelle. Alors que s'ils la laissaient en l'état, eh bien, ça leur ferait une petite réserve naturelle, une réserve marine naturelle, qui serait bénéfique pour le repeuplement, par exemple.
Et oui, on n'est pas une contradiction près, n'est-ce pas ? En tout cas, l'acceptation sociale de ce parc éolien de baie de Saint-Brieuc, ça semble progresser. Enfin, ça passe, quoi, maintenant.
Ça a complètement changé, parce que, bon, les gens ils deviennent réalistes, parfois. Hein. Ça peut arriver. Les hommes et les femmes peuvent parfois être réalistes.
Et ah oui, tant qu'ils consomment de l'électricité, il faut être réaliste, en effet. Ou alors, on arrête. On est à la radio.
Donc, on a besoin d'énergie, incontestablement. On admet... Alors après, il y a des appréciations qui sont visuelles. Certains ne supportent pas des éoliennes. À l'époque, on supportait bien des moulins à vent.
C'est vrai, non, puis même quand on voit les lignes à haute tension, c'est pas spécialement beau non plus.
C'est pas spécialement beau non plus, voilà.
D'accord. Donc ça, c'est un point, hein, ces éoliennes en mer. Dans le blog Repères Évolution du Monde de Paul Tréguer, il y a aussi un article très intéressant sur les projets de stockage du gaz carbonique, alors de stockage artificiel, enfin par les humains, notamment au Danemark. On stocke sous les sédiments marins. Comment ça fonctionne ? C'est quoi le principe ?
Alors voilà l'idée. Donc, premier point, ça n'est sûrement pas une solution importante pour résoudre le problème du climat, d'accord ? C'est une solution que j'appellerais marginale. Je sais que tous les lobbies pétroliers et gaziers ont fourché ce cheval disant « voilà la solution, on peut continuer à extraire du pétrole et du gaz, on va faire du CO2 et ensuite on va le stocker ». Et vous allez voir, c'est totalement marginal. Alors, point important, ça marche. On a une expérience qui est maintenant de plusieurs dizaines d'années au large de la Norvège. C'est le site Sleipner qui est en fait sous la pression du gouvernement norvégien. Alors, ils extraient du gaz, c'est-à-dire du gaz naturel, qui comprend un peu de CO2. Et au lieu de rejeter du CO2 dans l'air, dans l'atmosphère, grâce à une taxe, si je peux me permettre, la Norvège a donc conseillé à la société de récupérer ce CO2 et de le réinjecter d'où il vient, dans les sédiments marins. Donc ça marche depuis plus de 20 ans. Ça a été contrôlé par des experts indépendants, britanniques pour ne pas les citer.
Il n'y a pas de fuite.
Il n'y a pas de fuite. Et donc, c'est évidemment, il faut le vérifier. Et de ce fait, le Danemark et les Pays-Bas maintenant s'engagent dans cette voie. Ils ont effectivement des ex-champs gaziers au large de leur côte, qui peut accueillir effectivement une quantité assez conséquente. Mais dans le projet actuel, en fait, au niveau de l'Europe, quoi, ce que l'on pourrait ainsi récupérer, c'est, alors, je vais parler 200 milliards de tonnes, mais je vais vous dire en comparaison, ça représente peanuts par rapport à ce que nous émettons en Europe, 3,7 milliards de tonnes. Donc c'est une solution qui est marginale, mais qu'on ne peut pas...
3,7 milliards, non.
De tonnes par an.
Ah, et les 200 milliards, c'est quoi ?
Les 200 millions.
Ah, millions.
Millions de tonnes.
Ah oui, millions. D'accord, oui,
donc,
en effet.
Les 200 millions, enfin, 0,2 milliards, versus 3,7.
Oui, donc effectivement, c'est pas grand-chose.
C'est tout à fait marginal. Mais bon, on ne peut pas écarter cette solution.
Oui, après tout.
Comme solution
marginale. Si ça fonctionne, mais enfin, ça doit quand même être assez cher. Est-ce que c'est seulement intéressant économiquement?
Tout a un coût.
Ouais, voilà,
c'est-à-dire
c'est
que
ça.
Si on imagine avoir de l'énergie gratis, c'est sûrement pas le cas. Et d'autre part, je rappelle que notre objectif, l'objectif du GIEC, c'est d'aller vers une société sobre.
Ah, c'est ça.
C'est-à-dire que pour la France, en l'occurrence, ce que l'on veut, c'est 40% d'énergie en moins par rapport à la référence, quoi. C'est-à-dire presque deux fois moins d'énergie que nous dépensons, chacun d'entre nous, en tout cas pour l'ensemble national. Ça n'est pas rien, il faut donc s'engager en cette voie résolument. Et je vois qu'au niveau local, dans plusieurs communes, le chemin est déjà pris.
Des économies d'énergie, ah oui, par exemple.
Eh bien, en tout cas, on s'équipe pour les logements. C'est le premier poste. Ensuite, bien sûr...
Les logements, bien sûr, bien isolés.
Mmh. Et rénover les logements anciens. Et donc, c'est intéressant. Bien sûr que ça a un coût, mais ça rapporte rapidement parce qu'on voit bien que ça dépense énergétique. Je vais juste donner un exemple, le mien. Ma maison a été construite dans les années 76, très mal isolée. Je dépensais à l'époque 20 000 kWh par an. Grâce à l'isolant, je suis tombé à 7 000 kWh par an, ce qui fait que la différence est quand même assez sensible.
Ça valait le coup. Et en plus, on fait des économies donc d'argent, n'est-ce pas? Pas seulement d'énergie. Ça, c'est une bonne chose à préciser. Dans le blog Repère Évolution du Monde, il y a aussi un article le plus récent, d'ailleurs, sur le blanc qui devient vert. On l'a évoqué un petit peu par rapport au Groenland, c'est-à-dire qu'il y a de la végétation qui apparaît sur des zones qui étaient entièrement glacées, c'est ça?
Alors, je vais vous raconter une histoire.
Allons-y, écoutons.
J'étais donc en 88 au large de la péninsule antarctique et j'avais devant moi sur l'île du Roi George, qui est tout près de la péninsule antarctique, c'est totalement gelé, il y a une base chilienne et on voyait des enfants sur la neige parce que les Chiliens revendiquent l'Antarctique, en tout cas cette partie-là, pour leur compte, bien que ce soit contraire au traité. Mais c'était totalement gelé. Maintenant, en été, vous voyez les prairies apparaître. Je me croirais en quelque sorte au large des Kerguelen ou de Crozet. Et donc, on a du marquetage vert sur le blanc, en été, bien sûr. Donc, on voit bien qu'effectivement, le climat se réchauffe et que la glace fond dans cette période, en été austral, bien sûr. C'est le même processus que celui qui est en marche au Groenland.
Groenland qui doit son nom à la couleur verte, c'est ça?
Voilà, alors là, il y a un petit peu d'intox parce que Éric Le Rouge, à l'époque, avait effectivement trouvé quelques prairies qui étaient donc vertes. Donc il appelait cette terre blanche la terre verte, le Greenland, pour attirer effectivement les autres vikings dessus. Actuellement, bien sûr. On voit aussi ces prairies se développer, et bien au-delà que la partie, uniquement, la pointe sud-est.
Mais ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, en fait, bien sûr.
Ça n'est pas une bonne nouvelle, dans le sens où, effectivement, ça traduit le réchauffement rapide des zones polaires, qui jouent un rôle clé pour l'absorption de CO2 et pour réguler la température.
Ouais, on n'est pas allé dans les détails aussi du rôle de l'océan par rapport à la régulation du climat avec les histoires de courants, etc. Mais enfin bon, ça, on voit aussi que ça se dérègle à ce niveau-là. Les courants océaniques, les courants marins, enfin, on observe aussi des dérèglements, en fait.
Alors, on observe, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont inexactes. Là-dessus, je prends le fameux Gulf Stream. On dit que si le Gulf Stream se ralentit...
Ah oui.
Nous aurions ici en Europe, puisque nous bénéficions selon les offices du tourisme, dans les brochures en tout cas, on trouve que notre climat particulier dans l'Europe occidentale est dû à l'effet bienfaiteur du Gulf Stream. Ce n'est pas tout à fait vrai, puisqu'en fait le Gulf Stream lui tourne en rond et il passe bien au large. Il se boucle plutôt au niveau du Maroc que chez nous. Nous avons bien une dérive de l'Atlantique qui va jusqu'en Norvège. Bon, c'est une petite partie de ce courant. Ce sont surtout les vents d'ouest qui nous apportent, comme on le sait, de la pluie, ça ne manque pas en ce moment, et aussi de l'air doux. Et donc, à moins de changer complètement le système météorologique, une réduction du Gulf Stream n'apportera pas de catastrophe, vous n'aurez pas d'ours polaire au fond, ni même à Brest.
Mais qu'est-ce qui s'arrête alors en ce moment? On a observé un ralentissement de quelque chose.
Il y a un certain ralentissement, mais c'est tout à fait léger. Alors, il faut se souvenir que les phénomènes ne s'observent pas à l'échelle annuelle.
Ouais,
il faut plusieurs années d'observation, une cinquantaine d'années d'observation, pour être sûr que la tendance se confirme. Donc, il y a quelques signes à ralentissement de la branche qui va vers le nord, mais ceci n'est pas prouvé, en tout cas sur suffisamment d'années, pour effectivement confirmer cette hypothèse.
Et sinon, sur l'état de santé de l'océan, en général, qu'est-ce qu'on peut dire?
Alors, on a vu qu'il n'est pas brillant. À la fois, il se réchauffe, il s'acidifie.
Et il s'est réchauffé de combien, là, par exemple?
Alors, il se réchauffe, effectivement. Alors, en moyenne, c'est comme la Terre, hein, ouais. C'est-à-dire 1,5 degré, mais on voit qu'il y a des zones plus spécifiques, des hotspots, comme on dit. Alors, on a parlé tout à l'heure de l'Arctique, mais on va aussi parler, par exemple, de la mer Méditerranée. Là, c'est vraiment assez catastrophique, on l'a vu, avec des élévations qui sont de plusieurs degrés et qui se traduit par une forte évaporation de l'eau, avec en retour la vapeur d'eau transportée jusqu'aux montagnes, précipitation, inondation. Donc c'est un couple qui devient infernal.
Inondation, alors à quel endroit alors?
Alors on a vu en France, on a vu en Espagne, hein, vous rappelez, à Valence en particulier, dans cette zone-là. Mais au-delà aussi, parce que bien sûr la vapeur d'eau se transporte, y compris dans l'Europe plus au nord. Hein. Donc on voit effectivement que ça joue un rôle tout à fait fondamental et sans perspective de diminution, on est en train de jouer, enfin, nous les hommes et les femmes, aux apprentis sorciers.
Alors pour en savoir plus, eh bien, on peut lire « L'océan est-il maître du climat ?» de Paul Tréguer, préfacé par le climatologue Jean Jouzel, rien que ça, paru aux éditions Apogée. Disponible dans toutes les bonnes librairies. Et puis toujours aussi Jules Verne, Planète Océan, préfacé par l'amiral Alain Coldefy et par l'écrivain de marine Dominique Lebrun. Et donc c'est pareil, dans toutes les bonnes librairies, c'est chez Dialogue. Merci beaucoup Paul Tréguer.
Merci à vous. À bientôt.